VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Direction le Cameroun, où Maurice Kamto, le principal opposant, a été inculpé pour rébellion, insurrection, hostilité contre la patrie et transféré donc à la prison centrale du Yaoundé. Raïssa Girondin nous en dit plus.
Maurice Kamto, 64 ans, avocat de renom et ancien ministre, a été présenté avec 26 de ses partisans devant le tribunal militaire. Ils ont été inculpés de rébellion, insurrection, hostilité contre la patrie. 5 ont été libérés sous caution et 22, dont M. Kamto, ont été transférés à la prison centrale de Yaoundé. Kamto et les autres accusés peuvent encourir la peine de mort, légale au Cameroun, mais qui n'a pas été appliquée depuis plus de 30 ans. Maurice Kamto est arrivé deuxième à la présidentielle d'octobre 2018, loin derrière Paul Biya, réélu pour un 7e mandat consécutif. Il a qualifié la victoire du président sortant de hold-up électoral et a plusieurs fois appelé à des marches de protestations interdites. Depuis son arrestation le 28 janvier à Douala, Maurice Kamto était en garde à vue dans les locaux d'une unité spéciale de la police à Yaoundé. Son mouvement pour la renaissance du Cameroun affirme que plus de 200 partisans ont été arrêtés en marge des manifestations contre la réélection de Paul Biya au pouvoir depuis 36 ans. Selon les autorités, 147 personnes sont en détention provisoire et attendent d'être présentées à un juge.
En Côte d'Ivoire, le député Alain Lobognon, un proche du très influent Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a recouvré sa liberté après 2 semaines de détention. D'Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
C'est un homme libre que l'ancien ministre et député Alain Lobognon a quitté ce mercredi la salle de la cour d'appel pour regagner son domicile. Le 29 janvier, ce député proche de Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale, avait été condamné à 1 an de prison ferme pour divulgation des fausses nouvelles et incitation à la violence. Il avait posté un tweet annonçant l'arrestation d'un autre député. La peine a été revue par la cour d'appel. Alain Lobognon écope désormais de 6 mois de prison avec sursis. Ses avocats affirment cependant qu'ils vont se pouvoir en cassation. Maître Afousiata Bambalamine.
Pour nous, il est important de pouvoir aller en cassation. On va saisir la Cour suprême parce qu'on estime qu'en réalité, il n'y avait aucun élément qui permettait de condamner notre client. Alain Lobognon, c'est un frère, donc je ne peux qu'être heureuse qu'il soit libéré. Mais en même temps, je vous dis, on n'est pas totalement satisfait, nous les avocats, parce qu'on estime que le droit n'a pas été réellement dit jusqu'au bout.
Dans leur plaidoirie, les avocats d'Alain Lobognon n'ont pas manqué de dénoncer l'instrumentalisation de la justice pour régler des différends politiques. Âgé de 50 ans, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports de 2011 à 2015, ancien directeur de la communication des Forces Nouvelles et très proche de Guillaume Soro, le député Lobognon qui avait cessé dimanche une grève de la faim est donc sorti des prisons soulagé. Il a aussitôt rendu visite à Guillaume Soro. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
5 militaires maliens ont été tués mardi dans 2 attaques distinctes dans le centre du Mali. Des éléments de la gendarmerie de Dialobé, quittant Mopti pour Dialobé, ont fait l'objet d'une attaque à l'engin explosif improvisé suivi de tirs nourris. Le bilan est de 3 morts, a affirmé à l'AFP une source militaire à Mopti, siège du gouvernorat. Par ailleurs, dans la même région, 2 militaires maliens patrouillent entre Koro et Bankas, près de la frontière avec le Burkina Faso, ont été tués par des assaillants non identifiés selon les autorités locales.
Nos infos sur voaafrique.com.
À ce micro, Jean-Roger Billon. Les discussions commerciales entre la Chine et les États-Unis ont repris jeudi à Pékin au niveau des chefs de la négociation à presque 2 semaines de l'échéance fixée par Donald Trump avant d'augmenter à nouveau les droits de douane sur les produits chinois. Les États-Unis ont donné jusqu'au 1er mars à la Chine pour trouver un terrain d'entente sur les différents commerciaux entre les deux pays avant de faire passer de 10 à 25% les droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits importés de la Chine chaque année. Donald Trump a décidé d'approuver le compromis bipartisan sur le financement de la sécurité frontalière des États-Unis, une résolution qui lève la menace d'une nouvelle paralysie du gouvernement fédéral. Claire Morin-Gibou.
Il y a des tensions, il y a des manifestations ici, pas seulement à Port-au-Prince, mais c'est au pays. Les rues sont bloquées, il y a des pneus qui enflamment partout dans le pays. c'est vraiment triste. L'école ne fonctionne pas, l'administration publique ne fonctionne pas, il n'y a pas de transport public, le pays est fermé.
Et qui sont les organisateurs de ce mouvement?
Le mouvement vient de l'opposition. Pour le moment, on peut dire que la population haïtienne ou une partie de la population haïtienne, c'est beaucoup, beaucoup de gens. Des gens qui demandent la baisse de la vie est trop chère. Des gens qui demandent le départ du président. Il y a la communauté internationale haïtienne, le non-congo, qui demande dialogue. Et même là encore, beaucoup de gens de la population refusent de dialoguer. Puisque pour eux, dialoguer en Haïti, c'est toujours un cercle vicieux là.
Jovenel Moïse a été élu justement pour cet agenda.
Je pense qu'il y a vraiment une méfiance qui développe autour de l'État haïtien et entre la population. Et M. Jovenel Moïse, lorsqu'il était en campagne, il a fait beaucoup, beaucoup de promesses. Et malheureusement, il ne peut pas atterrir avec les promesses. Maintenant, c'est beaucoup, c'est très mélangé. Ce n'est pas une question de l'opposition en ce moment-là. À ce qui se passe en Haïti, c'est presque une révolution populaire. C'est vraiment, vraiment compliqué ici à Port-au-Prince.
Il y en a qui disent que le président Jovenel Moïse a voulu s'attaquer à la corruption et qu'il y a eu une coalition des gens qui étaient visés et qui ont organisé ce mouvement.
Exactement. Il y a la corruption qui joue un rôle désenfaveur de Jovenel Moïse.
Est-ce qu'on peut dire que le président est en difficulté actuellement? Dans quelle mesure il peut renverser la vapeur, maîtriser ce mouvement de contestation et remettre les choses en ordre?
Il ne parle pas depuis 6 jours. On ne pense pas que sa parole peut changer vraiment les choses s'il ne donne pas la démission. Et il y a beaucoup de réunions en ce moment, beaucoup, beaucoup de réunions, mais les rues sont toujours bloquées. En ce moment-là, on parle, il y a manifestations partout dans le pays, dans le nord au Cap-Haïtien, à Port-au-Prince, dans toutes les coins de la capitale, dans le sud. C'est compliqué. On ne sait pas ce qui va passer dans les prochaines heures. Il y a les ambassades qui sont en train de vacciner les ressortissants. C'est difficile et compliqué.
Voilà, celui qui parlait là, c'était Louis Robillard, membre de la société civile en Haïti. Et vous le savez, Haïti est en proie à un mouvement de contestation antigouvernementale confronté à une instabilité politique chronique. Et depuis quelques jours, la population proteste contre la vie chère et demandait donc le départ du président Jovenel. Monsieur Louis Hino Robillard a été joint à Port-au-Prince par Eric Manirakiza. Une nouvelle série de pourparlers directs est prévue lundi prochain au Pakistan entre des officiels américains et des représentants des talibans pour trouver une solution politique à une guerre qui dure depuis 17 ans en Afghanistan. Ces discussions jugées jusqu'ici fructueuses sont menées par l'émissaire spécial américain Zalmay Khalilzad et le principal négociateur des talibans, Sheikh Mohammad Abbas Stanikazai. Elle se déroulait auparavant au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. La Cour internationale de justice a jugé mercredi recevable la demande de l'Iran en vue de récupérer près de 2 milliards de dollars d'avoirs gelés aux États-Unis qui souhaitent que ces fonds aillent aux victimes d'attaques attribuées à Téhéran. Washington avait déposé une requête contre la demande iranienne, estimant que l'Iran avait les mains sales au vu de ses liens présumés avec le terrorisme et que la Cour internationale de justice n'était pas compétente. Mais les juges internationaux qui siègent à La Haye ont rejeté ces recours et déclaré qu'ils étaient bien compétents pour statuer sur cette affaire qui pourrait encore envenimer les tensions entre les deux pays sans relations diplomatiques depuis 1980 et actuellement engagés donc dans un nouveau bras de fer à distance. On termine ce journal avec les États-Unis qui ont frappé mercredi soir une frappe contre Al-Qaïda dans le sud de la Libye, selon le gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli, reconnu par la communauté internationale. Le raid a visé un certain nombre de membres de l'organisation terroriste Al-Qaïda près de la ville d'Oubari, à 900 km au sud de Tripoli, a annoncé dans un bref communiqué le porte-parole du président du GNA, Farez al-Sayed. Et puis, je l'ai dit, les discussions commerciales entre la Chine et les États-Unis ont repris ce jeudi à Pékin au niveau des chefs de négociation. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Paris-Francisque. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.